RCF.
Bienvenue sur Odoro Kubeki, l'émission sur le Japon qui va vous surprendre. Chaque mois, Alizée et moi-même allons vous proposer sur RCF Nièvre de découvrir un peu de la culture japonaise. Bonjour Alizée.
Bonjour Gwen, bonjour à tous.
Alors, aujourd'hui c'est un petit peu spécial, puisque après quelques temps en vadrouille au Japon, tu nous reviens toute fraîche de là-bas.
Oui, c'est ça, toute fraîche avec quelques heures de sommeil en moins qui va me manquer. Mais ouais, je suis revenue il y a très peu de temps, 2 jours on va dire. Mais très très contente, encore un peu la tête là-bas pour tout te dire.
J'imagine bien. D'ailleurs, on va en profiter un peu. Puisque pour cette première partie d'émission, on va se profiter de ton expérience et pour nous faire un petit point culturel Japon. Alors déjà, bon, je pense qu'on n'aura clairement pas le temps de détailler tout ton voyage. Il avait l'air dense, riche, et d'ailleurs tu m'as largement donné envie de sauter dans un avion et vous rejoindre. Mais bon, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué pendant ce voyage ? Que t'as préféré ?
Alors, ce que j'ai préféré, c'est tout sauf les grandes villes. Non, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est effectivement sorti, comme on en avait pu en parler dans une autre émission avec Ellie, qui fait du travel planning, c'est de sortir des sentiers battus. Voilà, c'est vraiment les villes avec beaucoup, enfin voilà, à une dimension un peu plus humaine que Tokyo, Osaka, Kyoto, enfin même si on a rencontré plein de monde, donc la dimension humaine est là, mais c'était les moments où on était un peu plus dans la campagne, avec des paysages voilà de montagnes, de champs, des gens qui sont dans des tout petits patelins. Bon, après, à échelle du Japon, bien sûr, puisque petit patelin à échelle du Japon, on est à 30 000 habitants, hein, voilà, 30 000, 80 000 parfois, mais c'est des villes plus authentique, je pense, ou justement qu'on peut plus visiter. Voilà, il y a des villes qui se vivent, je pense, comme Tokyo, Osaka, et puis il y a des villes qui se visitent et qui se ressentent. Et ça, pour ça, c'est ce qui, je pense, que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et puis après aussi, toutes les rencontres qu'on a pu faire, des rencontres imprévues, voilà, et des amitiés, voilà, qui se sont faites au fil des rencontres. Et puis d'autres, voilà, plus prévu, mais qui était aussi très belle avec des artisans japonais et des Français qui étaient sur place qui nous ont aidés à les rencontrer, ces artisans. Et c'était vraiment super. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Les rencontres et la campagne.
Je te rejoins aussi sur la campagne. J'avoue que ça avait été un dépaysement total. Du coup, la question qui suit est un peu logique. Est-ce que tu as détesté quelque chose ?
J'ai pas vraiment détesté quelque chose. En fait, même j'ai rien détesté. Ça fait un peu fangirl de dire ça, mais c'est vrai que j'ai rien détesté. Après, il y a des choses qui ont pu me marquer, pas forcément de manière très positive, notamment quand on était à Tokyo, dans certains quartiers comme Shinjuku ou Akihabara, il y a beaucoup de jeunes filles habillées en maid, voilà, ou autres d'ailleurs, mais qui font, qui sont dehors, qui fassent froid, qui ventent, qui pleuvent des cordes pour attirer les clients de passage dans les établissements de bar à hôtesse ou des maids de café. Et franchement, quand on les voit, on se dit elles sont vraiment pas âgées. Et elles sont une pléthore à faire ça, et ça fait quand même assez mal au cœur. Après, c'est pas étonnant parce qu'on le sait. Enfin, voilà, je savais on sait que ça existe, mais voilà, c'est quelque chose qui est pas très enthousiasmant. Voilà, quand on le voit en vrai, et c'est assez impressionnant de voir combien elles sont quand le soir arrive. Sinon, quelque chose d'un peu plus basique, on va dire, c'est trivial. Hein, c'est ce qui m'a marqué, mais c'est pas en négatif. On le sait aussi. C'est le prix des fruits. C'est voilà, au bout d'un certain temps, on a envie de manger des fruits. Au Japon, on n'en mange pas beaucoup parce qu'en fait, c'est très très cher. C'est extrêmement cher, les fruits au Japon. Donc, on n'en a pas, clairement pas mangé tous les jours. Et voilà, donc c'est des petites choses. Voilà, ça c'est un peu plus trivial effectivement, mais voilà. Et puis aussi le fait que les trottoirs, c'est des lignes blanches au niveau de la route. pour marcher pendant un petit moment, des fois, bon, faut faire quand même un peu gaffe à soi où on met les pieds par rapport au véhicule, voilà. Mais faut faire un peu gaffe, on se balade, mais c'est pas très grave en tout cas.
Oui, mais je vois un peu, j'ai eu ces mêmes remarques, à part le trottoir, j'avoue que ça, j'avais pas fait attention. Mais c'est les différences un petit peu de culture. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un maid café, c'est un endroit où on peut venir. En général, ce sont des hommes qui fréquentent ces établissements. Et les serveuses, parce qu'elles sont principalement des femmes, sont souvent déguisées, habillées avec des tenues de cosplay, donc de déguisement, donc de soubrettes, mais pas que. Et pour attirer le client, en général, elles sont dehors et elles alpaguent. Les hommes qui passent et qui peuvent venir consommer boisson ou nourriture. L'idée, c'est pas de la prostitution, normalement.
Oui, non, c'est pas de la prostitution, mais c'est vrai que c'est, voilà, tu les vois dehors. Alors après, il y a les bars hôtesses encore, d'autres principes aussi, mais voilà, c'est de les voir toutes dehors, très jeunes. Voilà, habillé en soubrette, à attendre que le touriste, enfin, que d'attirer un touriste qui a souvent l'âge de leur père. Enfin bon, voilà, c'est un peu triste, quoi.
Mmh. Ouais, je préfère aussi.
Mais que mon point de vue. Voilà, je sais, ces propos ne concernent que moi.
Je te rejoins sur le propos aussi. J'avoue que ça m'avait un peu dérangé, même beaucoup d'ailleurs. Pour revenir à des choses plus positives, tu nous as évoqué justement l'interview qu'on avait fait avec Ellie qui a monté son entreprise de travel planning. Est-ce que tu aurais des conseils pour venir agrémenter ce qu'elle nous avait déjà dit ou même confirmer certains qu'elle nous avait partagés?
Alors, un des conseils que je pourrais donner, c'est effectivement de ne pas se jeter sur le JR Pass, qui est un pass justement de train sur une durée. On peut prendre voilà un certain nombre de trains pour une durée d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Et ce JR Pass a énormément augmenté. On voulait aller de telle ville à telle ville. Et ben on a regardé quels sont les trains qui allaient, le prix pour cette durée-là. Voilà, juste pour ce trajet-là. Et franchement, on s'en est plutôt mieux tiré. En fait, bon, on avait tout prévu à l'avance, mais on s'en tire mieux comme ça que si on avait pris des JR Pass, en fait, au niveau monétaire. Donc vraiment, vous précipitez pas sur JR Pass. Ça peut être pratique parce que voilà, on le prend et puis on se pose plus trop de questions. Mais au final, on s'y retrouve peut-être moins au niveau argent. Autre chose, la Suica, la carte Suica, c'est une carte en fait qui peut permettre de payer des choses dans des commerces, mais principalement de payer ses trajets. Voilà, en passant la carte à une borne, ça valide. On passe à une nouvelle borne quand on sort de la gare et ça valide le trajet. Ça nous a sauvé la vie parce qu'on s'est, enfin voilà, on la charge et on se pose pas de questions. Voilà, on paye nos trajets sans se dire mon Dieu, il faut que je trouve une borne, etc., etc. Alors après, la Suica ne marche pas pour tous les trains, mais quand même pour la majorité et ça c'est très très pratique. Et qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Google, franchement, a été un de nos meilleurs amis. Désolée pour ceux qui n'aiment pas trop Google, mais avec Google Maps, notamment pour s'informer sur les trains, ça nous a sauvé la vie plus d'une fois. Parce qu'en fait, Google Maps, en rentrant votre itinéraire, d'où vous partez exactement et où vous allez, il vous sort les différents trains, il vous sort combien ça va vous coûter. Il vous sort même des fois le quai d'où part le train, donc ça peut vraiment vraiment beaucoup vous aider et même voilà à choisir votre train parce que parfois pour la même destination mais à un horaire différent le prix il va varier du simple au double. Donc vraiment nous ça nous a aussi beaucoup aidé et aussi bah Google plus généralement pour trouver des endroits où manger bien notés. Et en fait, on a vraiment dégoté grâce à ça des vraies pépites. Enfin, j'en dis pas trop plus, mais des endroits presque cachés, quoi, et avec des expériences assez culinaires assez folles, enfin, et humaines assez folles aussi. Donc vraiment, je conseille, Google nous a été d'une grande aide.
Eh ben, merci pour tous ces petites infos. Maintenant, j'ai hâte de voir les vidéos que vous allez monter parce que j'imagine que ce n'est qu'un 1% de ce que vous avez vécu.
Oula, oui.
Moi, peut-être encore. Et avant de passer au sujet du jour, on vous a proposé un intermède sonore un petit peu différent de d'habitude. C'est pour vous mettre dans l'ambiance, on vous explique juste après.
Chérie, tu entends ce que ton fils... a fait. Comment ça, mon fils? Je te signale que c'est aussi ton fils. Et je suis sûr que... ne ferai jamais une chose pareille. Approche-toi, Kinchan, montre-moi. Mais Kinchan, mais tu te moques de moi? Kobune, Janeka, tu n'as pas de boss. C'est parce que son prénom est tellement long que la bouse a disparu.
Ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'une pièce de Rakugo qui est jouée par Cyril Copini en novembre 2022 à Toulouse. Et cette pièce, elle s'appelle Jugemu. On a eu la chance d'assister à son spectacle et de l'enregistrer. On s'est beaucoup marré, même si on est loin d'être bilingue en japonais, puisque vous l'avez entendu, Cyril fait du Rakugo en français, aussi en japonais au Japon, bien sûr, et également en anglais. Il vit depuis une vingtaine d'années au Japon. En parallèle du Rakugo, il est aussi traducteur. Il traduit notamment le manga bien connu Détective Conan, mais aussi Princesse Puncheuse, Blue Wolf, Golden Gold, bien d'autres encore.
Si on vous parle de Rakugo et de Cyril Copini aujourd'hui, c'est pas par hasard, parce que le 7 avril, à la salle des Éduances de Nevers, on aura la chance de le voir en direct. Il est actuellement en tournée européenne pour son échappée Rakugo, et il nous fait le plaisir et l'honneur de s'arrêter à Nevers pour une heure de spectacle. Alors ça se passera à la salle des Éduances, comme je disais, le 7 avril, à 15h30. Et une heure de spectacle où on pourra voir plusieurs scènes jouées, suivies de 30 minutes de questions-réponses et de petites conférences pour aller un petit peu plus loin sur l'art du Rakugo. C'est accessible dès 7 ans, l'entrée est payante, vous pouvez prendre vos places directement sur la page Hello Asso de l'association Kitsune ou nous envoyer un mail à association.kitsune@gmail.com pour réserver vos places et les payer le jour même, juste avant la représentation.
Avant de le découvrir sur scène, on vous propose d'en connaître un peu plus sur lui et sur le Rakugo. On s'est retrouvé à Osaka, où il vit depuis quelques années, pour une interview qu'on va vous partager ici. Bonne écoute, on se retrouve juste après.
Bonjour Cyril.
Bonjour Alizé.
Ça va. Je suis très contente de te retrouver dans ta ville. À Osaka, au Japon.
Oui.
Pour que tu nous parles d'un art que tu pratiques déjà depuis plusieurs années, c'est le Rakugo.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le Rakugo ?
Ah mais attends, les gens, ils ont pas vu le reportage fabuleux que vous avez fait sur Culture Japon. C'est quoi ce travail? Bon, il faut regarder Culture Japon, hein, il y a tout dedans. Non, mais alors, puisqu'on n'a pas l'image là, c'est que le son. Pour vous faire la faire courte, le Rakugo, c'est un art traditionnel du conte japonais, en fait. Enfin, c'est un art traditionnel japonais du conte, plutôt, qui a 400 ans d'histoire. Et en fait, c'est un mélange un peu de tout. Il y a du conte, il y a du mime. On est habillé en kimono et on raconte une histoire en interprétant tous les personnages de l'histoire. Donc, il y a un côté aussi un peu acting. Et c'est eux qui font vivre l'histoire, en fait. Nous, les conteurs ne sont que des filtres.
Et d'où viennent les histoires qui sont racontées? Est-ce qu'il y a plusieurs genres d'histoires?
Alors, il y a plusieurs genres d'histoires. Une grosse partie, c'est quand même des histoires avec un ressort comique. Hein. Rakugo, ça veut dire littéralement la parole qui a une chute. Donc, tu as des histoires qui se racontaient par les conteurs et les conteuses pour arriver à une chute. Donc, qui est souvent comique, qui peut être aussi plutôt moralisatrice. Après, il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires fantastiques, une histoire de chien qui se transforme en humain, par exemple. Tout ça, ça fait partie d'un répertoire qui s'est plus ou moins créé à l'époque Edo, donc au XVIIe siècle, et la forme continue à se transmettre telle qu'elle de nos jours, quoi. Alors, il y a aussi du Rakugo plus moderne, voire contemporain, parce que j'ai oublié de préciser effectivement qu'on avait seulement avec nous deux accessoires, un éventail et un carré de tissu qu'on appelle le tenugui, qui vont aussi servir un peu à amplifier, à stimuler l'imagination du public quand on mime une scène, par exemple, où on mange, je sais pas, un bol de nouilles, on va utiliser l'éventail pour faire des baguettes. Le carré de tissu, ça peut servir de livre aussi. Donc, si tu veux, ça permet un peu d'illustrer le propos qu'on est en train de raconter. Et ton éventail, eh ben, ça peut devenir un téléphone. Donc, si tu veux, tu peux aussi adapter des histoires et créer des histoires nouvelles, quoi. Mais il y en a peu, quand même. Dans l'ensemble, on tourne beaucoup avec les classiques.
Et est-ce que c'est encore très pratiqué aujourd'hui au Japon ?
Alors, très pratiqué, oui, c'est pratiqué. Alors, c'est très difficile de rentrer dans ce milieu-là parce que il n'y a pas d'école. Dans le sens où tu vas payer un professeur qui va te donner des cours deux fois par semaine, un peu comme des cours de théâtre, des choses comme ça. Mais il y a des écoles dans le sens où c'est des écoles de maîtres. Donc, c'est pas la même définition du mot école, si tu veux. Donc, si tu veux faire du rakugo, il faut déjà que tu trouves le maître qui va t'accepter et après suivre une formation auprès de ce maître qui peut durer très, très longtemps. Et avant que tu puisses monter sur scène et être reconnu comme professionnel du rakugo. Donc c'est vraiment un sacerdoce, quoi. quand tu commences, il y a beaucoup de gens qui laissent tomber en cours de route. Et donc dans ce sens-là, oui, c'est pratiqué. Il doit y avoir, je dirais, 800 conteurs professionnels maintenant dans tout le Japon, essentiellement sur Tokyo et Osaka. Bon, faut quand même être bien accroché hein, pour avoir envie de rentrer dans ce milieu-là. Après, en revanche, c'est un art extrêmement vivant, qui se perpétue et qui vit aussi au travers des médias contemporains. Quoi. C'est-à-dire il y a des mangas sur le rakugo, il y a des dramas sur le rakugo, les rakugo stars, ils ont aussi des émissions de radio. Donc si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 fort dans la culture japonaise au quotidien, comparé aux autres arts traditionnels qu'on connaît peut-être un peu mieux, comme le no ou le kabuki. Le rakugo, ça se voit, ça s'entend, ça se pratique tous les jours. Je veux dire, il y a des théâtres dédiés à ça, qu'on appelle des yosei, qui sont ouverts toute l'année, essentiellement à Tokyo et à Osaka. Et les gens y vont. Quoi. Puis il y a une émission de radio, de télé, qui s'appelle Shōten, qui est là tous les dimanches sur Nihon Televi, qui est une émission de rakugo et qui est la plus vieille émission au monde, pas seulement du Japon, mais au monde, plus de 50 ans d'existence, tous les dimanches soirs. Donc, le rakugo fait quand même partie intégrante de la vie japonaise. Quoi.
Donc, c'est pratiqué et c'est regardé.
C'est très regardé, c'est très suivi. Ouais, ouais.
Donc, les gens, ils sont toujours attachés à cet art-là.
Complètement.
Qui existe depuis des centaines
Complètement.
D'années.
Parce qu'on est sur un art populaire. Si tu veux, le kabuki ou le no, c'est un peu réservé à une élite. Déjà, ça coûte très cher. Alors que le rakugo, c'est vraiment la culture de la parole. Quoi, tu vois, c'est plus accessible à tout le monde. Quoi. Ça couvre 7 à 77 ans, pour reprendre la formule.
D'accord. Et toi, comment tu en es venu à faire du rakugo ?
Alors moi, c'est une espèce d'extension de la langue, si tu veux, parce que évidemment, le rakugo ne peut pas exister sans le japonais, et le japonais ne peut pas exister sans le rakugo, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de calembours aussi qui sont basés sur la langue japonaise. Et moi, j'apprends le japonais depuis 35 ans maintenant, et puis j'ai fait une carrière au Japon professionnelle. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens... Quand tu fais un peu un bilan de ce que tu as vécu, je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je me disais, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à améliorer mon apprentissage du japonais ? Parce que le japonais, quand tu commences, c'est ad vitam aeternam. Et à l'origine, moi, j'étais plutôt dans la littérature moderne. Et puis, je me suis dit, ouais, je ne vais pas reprendre des études de littérature, machin, m'enfermer dans une bibliothèque et tout. Et puis, le rakugo, c'est un truc qui me passionnait depuis assez longtemps. Que je suivais à la télé ou comme ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire ça, quoi. Donc, j'ai complètement squeezé la partie formation. Hein. Je ne suis pas allé demander à un maître de me prendre comme disciple sous
pendant
son aile
10
pendant 10 ans. J'ai commencé direct à apprendre des histoires. Puis, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé. Alors, il y a des maîtres avec qui je travaille et qui me soutiennent aussi. Mais si tu veux, moi, je ne suis pas reconnu dans le milieu comme étant un professionnel du rakugo, parce que je n'ai pas fait cette fameuse formation. Mais ça ne m'empêche pas de faire des spectacles et d'exporter le rakugo en France et ailleurs.
Parce que justement, c'est ça. Où est-ce que tu te produis ? Tu ne te produis pas qu'au Japon ?
Alors, non, je me produis essentiellement dans les pays, en France et dans les pays francophones, Belgique, Suisse, Canada, enfin Québec et Nouvelle-Calédonie. Et là, je me suis mis au rakugo en anglais aussi, English rakugo. Ben là, cette année, il y a beaucoup de dates aussi dans des pays, alors qu'ils ne sont pas spécialement anglophones, mais ça va être des spectacles en anglais. Je vais aller jouer à Istanbul, je vais jouer en Belgique flamande, mais donc pour le coup en anglais, parce que je ne parle pas le flamand, et eux ne parlent pas le français, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui se mettent en place petit à petit, quoi. Donc, là où je peux aller, j'y vais, quoi. Puis même si on m'invite pas, j'y vais quand même, hein, c'est pas grave.
Et justement, tu es arrivé à adapter des pièces qui sont en japonais en français.
Absolument. Alors, sur l'adaptation, c'est pas, je ne travaille pas tout seul. Hein. Y a un autre Français qui s'appelle Stéphane Ferrandez, qui vit à Paris, qui fait aussi du rakugo en français, et qui travaille avec une auteure qui s'appelle Sandrine Garbuglia. Donc, on a eu fait des projets ensemble, notamment un bouquin qui s'appelle « Histoire tombée d'un éventail », qui a été écrit par Sandrine, mais dont la traduction des textes ont été assurés par Stéphane et moi-même. Et donc, si tu veux, là, on est sur un autre corps de métier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires aussi, pas toutes, mais que je joue en français, qui ont été adaptées par Sandrine, parce qu'elle, elle sait faire ça. Moi, je peux te traduire un bouquin ou une histoire du japonais vers le français, un peu brut de décoffrage, donner cette version traduite à Sandrine, qui va apporter une touche, justement, de mettre des nuances pour que ça fasse mouche auprès d'un public français, avec aussi des gags ou des tours de phrases que moi j'ai pas spécialement en tête aussi parce que j'habite plus en France depuis très longtemps, donc il y a aussi une perte de connaissance sur l'actualité qui peut parfois aussi servir et alimenter le récit, quoi. On peut, ça qui est bien avec le rakugo, c'est qu'on peut intégrer des gags actuels dans une histoire qui a 300-400 ans, quoi. Donc c'est vrai qu'être au fait de ce qui se passe dans le pays dans lequel on joue, c'est aussi important. Et je dirais même plus de la ville. Si dans la ville dans laquelle on est, on connaît une spécificité particulière de laquelle on va pouvoir s'amuser et jouer, c'est aussi une très bonne entrée en matière pour accrocher le public qui, bien souvent, c'est pas trop ce que c'est le rakugo. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu à reculons. Et puis, quand ils ressortent, ils ont des étoiles plein les yeux parce que c'est vraiment super, quoi.
Et ce sera sans doute le cas à Nevers. Du coup, tu viens le 7 avril.
Exactement, le 7 avril à Nevers. Je suis ravi. C'est la première fois que je viens à Nevers. Et alors, comme je viens de Nice, on me fait toujours la blague. On me dit « Nice is nice ». Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire « Nevers, c'est Nevers ». Voilà. Nevers, pardon. Nevers, c'est Nevers. Nevers. Pas facile à dire. Hein.
Et qu'est-ce que tu dirais aux Nivernais qui, justement, sans doute ne connaissent pas tous le rakugo? Et que pour les convaincre de venir t'écouter à la salle des Éduins ce 7 avril.
Alors déjà d'écouter l'interview et puis d'aller faire un tour sur Culture Japon s'ils veulent voir à quoi ça ressemble en image en tout cas. Et puis après pour vraiment venir le jour J, non, je pense qu'il faut. On est tellement dans une culture à l'extrême de la culture française que rien que le fait de venir voir cette forme. Qui fait rire aux Japonais, qui fait rire les Japonais, c'est rien que ça en soi, c'est super intéressant, quoi. Et de casser aussi le cliché, de se dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah bon, mais les Japonais, ils ont de l'humour, ils ont une culture de l'humour, ah bon, ils sont si sérieux, toujours machin, c'est là. Oui, il y a une vraie culture de l'humour au Japon, et c'est pas que des tartes à la crème ou des mecs qui se tapent sur la tête en slip et qui font n'importe quoi, quoi. Il y a une vraie culture de l'humour nuancée et historique qui est super passionnante à découvrir, quoi.
Et moi, je vous confirme, pour avoir déjà vu donc Cyril sur scène, on se marre. Vraiment, on se marre. Merci beaucoup, Cyril.
Merci à toi.
Pour cette interview. Et puis, on se retrouve le 7 avril en France, à Nevers.
Yes.
Merci.
Vous êtes sur RCF Nièvre. Et vous écoutez Odoro Kubeki, l'émission qui vous parle du Japon. Avant de passer à nos conseils du jour, je vous fais un petit aparté pour vous parler d'un autre art comique japonais, le manzai. C'est un duo comique, en fait, avec deux personnages au caractère bien distinct qui font face au public en parlant dans le même micro. Il y a le tsukomi, lui, qui est plutôt sérieux et rationnel, et le bokeh, plutôt irrationnel, excessif, qui va exagérer les choses. Le comique vient de quiproquo entre les deux personnages, de jeux de mots, de l'opposition en fait entre l'absurde, qui est représenté par le bokeh, et le rationnel, qui est représenté par le tsukomi. Donc c'est aussi un art de la parole, un art comique de la parole. Comme le rakugo, le manzai se joue dans les yosei, c'est les théâtres traditionnels au Japon, et c'est un art comique, il me semble, qui est issu de la région d'Osaka.
Pour vous permettre d'aller soit de préparer la représentation, soit, si la représentation vous a convaincu, vous aurez la possibilité de retrouver trois ouvrages après le rakugo, L'un, Cyril en a parlé, c'est Histoire tombée d'un éventail, qu'il a lui-même aidé à composer. Les deux autres seront des mangas. Le premier sera, c'est Akane Banashi, qui a été édité aux éditions Kiun, qui met en scène une jeune fille qui a 16 ans et qui rêve de faire du Rakugo, et aussi de laver l'honneur de son père, qui n'a pas réussi quelques années plus tôt à devenir professionnel. Je ne vous en dis pas plus, mais les ouvrages sont disponibles en boutique et seront disponibles également à la salle des Éduances.
Et moi, je vous conseille un autre ouvrage qui sera aussi disponible ce jour-là. C'est aussi un manga. Ça s'appelle Le Rakugo à la vie, à la mort de Haruko Kumota. C'est une série de 5 tomes terminés, publiée en France par Le Lézard Noir, dont c'est Cyril qui a fait la traduction. C'est par ce manga que moi personnellement j'ai découvert le Rakugo. Je vous dis rapidement un peu le pitch. Dans les années 60 au Japon, on suit le parcours d'un jeune homme qui décide à sa sortie de prison de vouer sa vie au Rakugo, qu'il a découvert en détention. Il va devenir l'apprenti d'un grand maître qui a plutôt un passé tourmenté, à une époque où se pose la question de la survivance de cet art populaire, dont justement la popularité a tendance à décroître.
Merci d'avoir écouté Odoro Kubeki. On va vous dire au revoir avec une chanson traditionnelle japonaise qui vous évoque l'arrivée du printemps. Elle s'appelle Sakura Sakura, de la chaîne YouTube Sakura's Old Japanese Song. On vous dit au mois prochain et surtout au 7 avril.
À bientôt.
Thank you.